L'Évangile selon Matthieu, chapitre 9, du verset 25 au chapitre 10, les huit premiers versets. Jésus parcourait les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'Évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors, Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre. André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen.
Aujourd'hui, nous avons entendu deux histoires bien différentes et qui se déroulent à des centaines d'années d'écart l'une de l'autre. Et vous n'avez peut-être pas vu le rapport entre les deux tout de suite. La première nous emmène au pied d'une montagne dans un désert. On la connaît cette histoire, on l'a entendue déjà plusieurs fois. Et on rencontre à nouveau le peuple d'Israël qui vient de sortir d'Égypte. Il a quitté l'esclavage, mais il ne sait pas encore très bien comment vivre libre. Parce que ça s'apprend. La seconde histoire nous montre Jésus qui marche de village en village. Il rencontre des personnes malades, fatiguées, découragées. On nous le dit assez fort, c'est la première chose qu'il constate chez eux. Et puis il envoie ses disciples pour continuer ce qu'il a commencé. Bon, à première vue, ces textes semblent assez différents, pas faciles à associer, emboîter l'un dans l'autre peut-être, et pourtant, ils posent exactement la même question. Comment vivre ensemble quand Dieu nous appelle à la liberté? Je dis bien comment, et on nous explique comment dans les deux textes. Dans le livre de l'Exode, Dieu commence par rappeler quelque chose d'important. Vous avez remarqué qu'il ne dit pas « obéissez-moi d'abord, je verrai si je suis de bonne humeur, si le temps le permet, je verrai si je vous aime après ». Il dit « je vous ai fait sortir d'Égypte », c'est la première chose qui est dite. Autrement dit, vous êtes déjà libre. Ça, c'est fait. C'est seulement après que viennent les 10 commandements. Il faut d'abord être libre pour qu'on nous explique comment vivre cette liberté. Souvent, on imagine ces commandements comme une liste d'interdictions. Tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, etc. Et pourtant, il y en a qui affirment des choses et qui nous sont bien utiles. Elles ne sont pas que des interdictions. Et puis surtout, l'ensemble de ces manières de vivre peuvent être comprises autrement. Dieu ne donne pas des règles pour nous enfermer. Il n'a jamais enfermé ce peuple. Il lui a permis de tenir grâce à ses commandements pour passer d'une liberté acquise à un autre endroit où ils étaient, où ils pourraient enfin être chez eux. Il a donné des repères pour que la liberté ne se transforme pas tout de suite en un gigantesque bazar, ce qui nous arrive fréquemment. Parce qu'être libre, encore une fois, ça s'apprend. Ça ne signifie pas faire n'importe quoi. Si chacun ment, vole, écrase les autres ou ne pense qu'à lui-même, ce sont ceux qui sont tout en dessous qui en pâtissent les premiers. Et ça, à chaque fois ou presque. les 10 commandements ou les 10 bonnes manières de vivre sont un peu comme les panneaux sur une route. Ils ne nous empêchent pas d'avancer, mais ils nous aident surtout à avancer sans nous perdre. C'est à cela qu'ils servent, des panneaux indicateurs. Et d'ailleurs, quand on les regarde de près, ils parlent surtout de relations, relations avec Dieu, relations avec les autres, relations avec nous-mêmes. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, respecter ses parents, ne pas convoiter ce qui appartient aux autres. Vous les voyez réécrites devant vous sous une autre forme. C'est cela qu'ils disent. Tout cela vise à protéger la vie. On pourrait presque résumer les 10 commandements en une seule phrase. Fais en sorte que les autres puissent vivre et grandir à côté de toi. Voilà ce que Dieu souhaite pour son peuple. Et puis Jésus lui-même les a résumés d'une autre manière dans le Nouveau Testament. Mais justement, passons à l'Évangile. Là encore, il est question aussi de personnes qui sont un peu perdues, qui cherchent leur chemin, et qui ne savent pas non plus quoi faire de cette liberté ou de leur vie, tout simplement. Jésus regarde ces foules et Matthieu nous dit qu'il est ému de compassion. C'est la première chose, il ne pense rien à leur sujet. Il ressent quelque chose d'assez pathétique, d'assez triste. Ils sont perdus et fatigués. J'aime beaucoup cette image parce que si on ressent les émotions de quelqu'un, même si on est un peu loin géographiquement, quelques dizaines de mètres ou centaines de mètres, c'est qu'on s'est déjà approché de lui ou d'elle. Jésus ne juge personne, il ne classe pas, il ne fait pas le tri entre les bons et les mauvais. Il voit leur fatigue, leur peur, leurs blessures. Il voit des êtres humains comme nous et il se laisse toucher. Peut-être que c'est par là qu'il nous faut nous aussi commencer. Dans notre monde où on passe vite d'une image à l'autre, d'une info à l'autre, notre capacité à se laisser toucher est assez précieuse parce qu'elle est vite balayée par autre chose. Et puis Jésus ne s'arrête pas là, il appelle des disciples, il ne fait pas tout seul, vous l'avez remarqué. Là encore quelque chose surprenant, il ne leur dit pas « vous avez toutes les réponses ». Vous avez entendu, il nous reste souvent beaucoup de questions auxquelles nous essayons de répondre. Il ne leur dit pas « vous êtes meilleurs que les autres, vous avez tout compris, vous avez toutes les réponses ». Il leur dit simplement « allez rencontrer, allez écouter ». Allez apporter la paix, allez prendre soin. C'est cela que je vous demande, c'est ça que j'attends de vous. Autrement dit, la foi n'est pas seulement une affaire d'idées. C'est même rarement comme ça que ça commence. Certains peuvent même s'en passer. La foi devient vivante quand elle se transforme en geste. C'est exactement ce que Jésus fait et c'est ce que les disciples vont faire avec des succès mitigés. Mais ils le feront tout de même. Je crois que c'est là que les deux textes se rejoignent. Dans l'Exode, Dieu donne à son peuple une manière de vivre ensemble. Dans l'Évangile, Jésus envoie ses disciples vivre cette manière d'être, la mettre en pratique au milieu du monde, un monde fatigué et qui ne sait pas trop où aller. Les 10 paroles et les 10 bonnes manières de vivre, elle envoie des disciples poursuivre exactement le même objectif, faire grandir davantage l'humanité. Et puis parce que des questions nous restent, il faut toujours parfois les retourner contre soi-même, ou se les adresser en tout cas. Et nous, qu'est-ce qu'on peut retenir pour aujourd'hui de ces deux textes? Peut-être 3 choses. Et il nous faut les prendre comme communauté, tous ensemble, l'Église que nous sommes là aujourd'hui, et puis aussi chacun, chacune de son côté, pour soi. La première affirmation, c'est « tu es précieux ». C'est la première chose qui est dite. J'ai voulu pour toi la liberté, si je ne te donnais aucune valeur, je ne l'aurais pas voulu pour toi. Tu es précieux parce que je t'ai voulu libre. Avant même de recevoir un comment qui nous explique comment, quoi faire de notre liberté, Dieu dit à son peuple, tu es à moi, tu m'appartiens parce que tu as de la valeur pour moi. C'est important pour tout le monde, enfants, adultes, de réentendre cette chose-là. Nous sommes précieux. Et nous n'avons pas besoin de mériter notre valeur, en plus. Nous avons de la valeur parce que nous sommes là, et parce que quelqu'un a voulu que nous soyons là et libres. La deuxième chose, puisque nous sommes libres, c'est que la liberté demande de l'attention aux autres. On pense en général à sa propre liberté, on la défend et on a raison. Mais la liberté, c'est toujours vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Il y a toujours un autre ou une autre qui rentre dans cette liberté. Les commandements, les bonnes manières de vivre ne sont pas là pour nous stopper, nous empêcher d'avancer, nous faire peur. Elles sont là pour nous rappeler que nos choix entraînent des conséquences. Chaque fois que nous agissons, que nous parlons, ça a des conséquences, pour nous peut-être, sûrement même, mais aussi pour d'autres. Chaque parole peut construire ou abîmer quelque chose, nous le savons. Chaque geste peut blesser ou aider, tendre la main pour frapper ou pour relever, ce n'est pas la même utilisation. Être libre, c'est apprendre à utiliser sa liberté pour faire vivre les autres avec soi. Si on arrive à faire ça, alors nous savons ce que Dieu attend de nous et nous le faisons. Et puis la troisième chose, c'est que chacun peut être envoyé. Évidemment, Jésus a choisi 12 disciples, on pourrait dire, c'est une élite. Ils ont été sélectionnés, laissons-les faire, des experts, des spécialistes. Laissons-les s'occuper des choses importantes, et puis nous verrons bien si nous avons une participation à prendre dans ce qu'ils font par la suite, si jamais on nous appelle. Mais regardons-les faire, ce n'est pas ce qui est arrivé là-dedans. Il les a tous nommés, les 12, intégralement, tous envoyés parce que tous appelés, parce que tous, avec leurs compétences, avec leurs manques, avaient quelque chose à faire dans ce qu'on leur a demandé par la suite. Et tous sont partis en mission. Dans l'Évangile, Jésus n'en voit pas de spécialiste. Ça se saurait. Si on regarde le profil des disciples, on est loin des experts ou des spécialistes. Il envoie des personnes ordinaires qui ont été attrapées comme ça dans leur quotidien, sélectionnés d'une certaine manière, mais pas parce qu'ils étaient nécessairement meilleurs que les autres. Ils étaient comme nous. Les enfants peuvent apporter de la joie dans une cour d'école, les adolescents peuvent défendre celui ou celle qui est mis à l'écart, les adultes peuvent faire beaucoup de choses, les parents peuvent encourager, relever, les grands-parents peuvent transmettre. Nous avons tous quelque chose à faire. Chacun peut être porteur d'un peu de paix là où il en manque. Et nous n'avons pas besoin d'être parfaits. Mais ça fait quelques semaines que je vous le répète, je suis désolé, j'arrêterai d'être pesant à partir de la rentrée. Moi, j'ai encore 2 ou 3 dimanches pour vous le répéter. Porteur de paix, pas besoin d'être parfait. Nous avons simplement besoin d'oser faire un pas. C'est ce qu'ont fait les disciples, ils se sont trompés beaucoup. Ils sont revenus bredouilles, fâchés, ils ont été chassés parfois de là où ils avaient été envoyés. Et alors ? Dans quelques instants, nous allons chanter « Mon encre et ma voile ». C'est une belle image à ne pas comprendre de travers. Hein, ça ne veut pas dire à la fois l'accélérateur et le frein à main. C'est à cela que servent l'encre et la voile dans un bateau. Cette image résume les textes d'aujourd'hui, l'encre et la voile. Elle rappelle l'encre, les repères donnés, comme des balises, celles que nous avons remises autour de nous, devant nous, pour les relire. Une ancre, un ancrage, quelque chose qui donne un repère, un point fixe. Et puis la voile nous rappelle aussi qu'il faut embarquer pour aller un peu plus loin que là où nous sommes. Ça rappelle l'envoi de Jésus, l'envoi en mission, ce qui nous pousse à avancer vers les autres. Nous avons besoin et de l'un et de l'autre, des racines et de l'élan, des repères et aussi de la liberté, de l'écoute et de l'action. C'est ce que nous sommes rassemblés ici. C'est pour cela que nous sommes rassemblés ici en Église. Quand nous quitterons ce lieu, il faudra se souvenir d'une chose toute simple. Dieu nous appelle son peuple bien-aimé. Il en a sorti d'autres de bien des difficultés d'Égypte. Il a sorti les disciples aussi de leur affrontement avec un monde qui ne voulait pas d'eux la plupart du temps. Mais il nous donne aussi des chemins pour vivre ensemble. Jésus envoie apporter autour de nous un peu plus de justice, de bonté et d'espérance. C'est peut-être cela, aujourd'hui encore, devenir disciple. Amen.